bien bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir dans cette salle du casino pour cette rencontre avec Yasmina Khadra. Vous avez lu 3 romans de Yasmina Khadra, Kuzinka, L'Attentat et Les Hirondelles de Kaboul. Avant de vous donner la parole, et surtout d'abord dans un premier temps à vos délégués, ensuite à vous qui êtes dans cette salle, j'aimerais dire que d'abord je suis ravi de vous retrouver, de vous rencontrer et de retrouver Yasmina Khadra. On s'est retrouvé déjà ce matin dans un lieu à Genève, dans une école internationale avec des gens, des jeunes comme vous, tous de 15, 16, 17, 18 ans. J'aimerais rappeler très brièvement que, vous le savez d'ailleurs sans doute, mais Yasmina Khadra est née dans le désert saharien, donc il est bédouin. Pardon ?
Sans gourde. Je n'avais pas ma gourde.
Sans gourde, oui.
Bonjour, ça va ?
Est-ce que vous l'entendez ? Oui ?
Si.
Ah, voilà. À l'âge de 9 ans, vous avez été confié à une école militaire et durant près de 40 ans sous
36
votre...
Ans. 36.
36, oui, j'ai dit près de 40 ans. Oui, donc 36 ans.
Ils vont me prendre pour un jeune vieillard. Et...
Alors que vous êtes, je le rappelle, célibataire, riche
et célèbre.
Et célèbre. Voilà. Donc durant 36 ans, sous votre vrai nom, Mohamed Mouelessoul, vous avez été engagé dans l'armée algérienne, officier supérieur, vous avez combattu le GIA durant une dizaine d'années, cette guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts en Algérie, et cette période de guerre qu'on a appelée les décennies noires. Et parallèlement à cet engagement, vous avez commencé à écrire d'abord sous votre vrai nom, votre propre nom, puis sous le nom de Yasmina Khadra. J'aimerais tout de suite entrer dans le vif du sujet avec un extrait. On va commencer par ce roman très personnel, voire à certains égards autobiographique, et Kuzinka. C'est à la page 60. J'ai énormément lu dans mon adolescence, puis dans mes 20 ans. Peut-être cherchais-je à apprivoiser l'autre diablerie, celle des écrivains, c'est-à-dire ceux qui, frustrés par une réalité prosaïque, se croient en mesure de s'en débarrasser en empruntant au mythe un peu de leur vanité et de leur survivance. Plus je lisais, plus je m'apercevais que l'écriture relevait d'un exercice de défaite, d'une tentative de fuite en avant et surtout d'un pathétique dédoublement de la personnalité. Quel était l'apprentissage par excellence de la plus insidieuse des usurpations. Je lisais comme on exhume des vérités haïes, les fantômes de son propre martyr, si bien qu'à l'usure, je ne savais plus qui hantait qui était poussière et qui était fumée, qui était de chair et qui était l'esprit. À l'instar des écrivains, j'ai à mon tour voulu devenir mon propre personnage. Une manière certes pompeuse, mais moins téméraire, d'être son propre Dieu. Est-ce à dire que, Yasmina Khadra, lorsqu'on est écrivain, on est Dieu ?
Non, bonjour, je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, j'adore la jeunesse, parce qu'elle est justement le monde de demain. Et quand je vous regarde, je vois la vie en rose. Vous êtes un véritable jardin et je vous souhaite du fond du cœur tous les bonheurs du monde parce que vous les méritez. Et j'espère que vous n'allez pas vous inspirer de nous parce que nous sommes des êtres faillitaires. Nous n'avons pas su vous léguer un monde meilleur, mais vous saurez le rendre meilleur. Moi, je suis absolument certain. Quand je vous regarde, je deviens optimiste. Bon, pour revenir un peu à la question, il ne faut pas oublier que c'est mon personnage. Le problème avec beaucoup de gens, à chaque fois que je dis « je », on le confond avec ma personnalité à moi. Donc, quand j'ai écrit sur le terrorisme dans « À quoi rêvent les loups », j'ai dit « je », on m'a pris pour un terroriste. Et puis, quand j'ai écrit, par exemple, sur Kadhafi, Mohamed Kadhafi, un journaliste m'a dit « vous n'avez pas une petite tendance de despote ?» Non, je suis un écrivain, j'essaie tout simplement de m'attarder sur une situation, sur un caractère, sur une nature, et d'essayer de la convoquer. pour la vulgariser, pour la proposer au commun des mortels. Donc ici, il ne faut pas oublier que c'est un jeune homme blessé qui n'a lu finalement que le livre, qui essaie de le consoler par rapport à son propre martyr. Donc certainement, il est allé voir les écrivains les plus obscurs, les romans les plus tristes, les plus mélancoliques, les plus chagrins, pour essayer peut-être de prendre une certaine distance par rapport à ce qu'il vivait. Donc il n'y a pas de diablerie dans la littérature et chez les écrivains. La diablerie, elle est dans l'humain. Hein, il peut être cardinal, il peut être président, il peut être guichetier. Sauf les instituteurs et les enseignants, là, ils n'ont pas de diablerie parce qu'ils sont vraiment pour vous. Mais tout le reste, on a une part de diablerie. Et le combat de l'être humain, c'est justement de voir le bon sens prendre le dessus sur tout ce qui est malveillance et tout ce qui est regrettable et réducteur. Voilà. Donc ici, c'est un personnage qui a son propre univers. Et si ce personnage n'arrive pas à s'émerveiller à travers un livre, c'est que quelque part, il a perdu tout, il a perdu bonheur. Voilà, c'est pour ça qu'il est triste. Voilà, j'ai dit quelque part, il est des gens, si on venait à étaler sur leurs yeux toutes les splendeurs de la terre, ils ne verraient que leur propre laideur. Lui, peut-être, il fait partie de ça parce qu'il a été blessé, parce qu'il ne croit plus dans la générosité des autres.
Qu'y a-t-il qui vous ait inspiré ce livre, Kuzinka, qui néanmoins est un livre, enfin de mon point de vue, à la fois très personnel et pour un certain nombre de ce qui est dit, largement autobiographique?
Peut-être, non, il n'y a pas de... Je ne suis pas du tout ce personnage. Une dame m'a rencontré à Strasbourg, elle était venue à une de mes conférences, elle m'a dit, Monsieur Khadra, j'adore ce que vous faites, mais dites-moi, je vous en prie, vous n'avez rien à voir avec ce type, je n'ai jamais tué personne. Voilà, donc je l'ai rassuré. Mais c'est vrai que quand j'écris, quand je fais, j'emprunte à la littérature le jeu, je deviens vraiment ce personnage parce que je le comprends. J'ai la chance d'avoir côtoyé ou évolué au milieu de beaucoup de gens. J'étais dans cette école d'orphelins de la guerre. J'ai appris à vivre avec eux, à les connaître. Et leur malheur était tel que j'ai oublié le mien. Vous savez, quand on a 9 ans, quand on est ravi à sa famille à l'âge de 9 ans, alors lorsqu'on a été privé de gambader, de s'amuser, on a été privé d'insouciance, on est devenu adulte à l'âge de 9 ans, on est puni comme un soldat, on va en prison à l'âge de 9 ans, on est sanctionné sévèrement. À un certain moment, on se croit le dernier des êtres sur Terre. Et puis, en s'attardant un peu sur la souffrance des autres qui vivaient la même situation que moi, mais qui n'avaient pas de famille du tout, alors j'ai appris peut-être à m'intéresser à leur malheur avant d'intéresser au mien. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que j'ai voulu ne pas laisser un personnage dans la solitude la plus extrême. J'ai voulu lui prêter ma plume pour qu'il dise ses frustrations, ses hantises, son chagrin. Et voilà, ça a donné ce livre que j'ai écrit pendant 20 ans. Je l'ai commencé très jeune. J'ai mis 20 ans à écrire ce petit livre. D'habitude, j'ai écrit des livres. Morituri, je l'ai écrit en 30 jours. L'écrivain en 29 jours. L'attentat, c'est en 2 mois. Les Hirondelles de Kaboul, en 4 mois. Mais on a d'autres que j'ai mis peut-être une année ou deux à écrire. Mais celui-là, ça, 20 ans. C'est d'abord un exercice purement littéraire. J'ai voulu savoir si j'étais capable de domestiquer cette langue qui est merveilleuse et qu'on appelle la langue française, parce que c'est une langue sublime. Moi, j'adore cette langue. C'est pour ça qu'elle m'a émerveillé. Je suis complètement séduit par elle. Je suis amoureux d'elle. Si elle était femme et consentante, je crois que je l'aurais épousée avec beaucoup de... Mais c'est un exercice. J'ai voulu savoir si la littérature, la beauté de la littérature était capable de porter la laideur humaine. Je voulais savoir si la lumière de l'esprit, de la générosité artistique était capable de domestiquer la noirceur qui est en nous. Voilà, ça a été un travail. Moi, je trouve que c'est peut-être, sur le plan purement littéraire, c'est ce que j'ai fait de mieux de tout ce que j'ai écrit.
Pourquoi le choix, en ouverture de ce livre, de ces vers de Maïakovski, le poète russe qui s'est suicidé? Par quelle nuit délirante, fébrile, quel Goliath m'ont conçu si grand et tellement inutile?
Mais c'est tout l'homme qui est là. Toute cette créature merveilleuse, cette splendeur de la nature ou de Dieu, ce chef-d'œuvre de la création, c'est l'homme. Il n'y a pas plus... extraordinaire que l'être humain. C'est l'être humain qui ne le sait pas, qui l'ignore. Il est Il est la féerie de toute la création. Il est beaucoup plus... C'est vrai qu'il est éphémère parce que la nature le jalouse. Il faut qu'il soit court, il faut qu'il vive très peu, beaucoup moins qu'une lune ou qu'une étoile ou qu'un astre ou qu'un arbre. Mais parce que tout simplement, il a en lui une force de création qui pourrait défier s'il pouvait vivre 1000 ans. Peut-être qu'il pouvait même défier la création elle-même. Voilà, c'est Maïkovski le dit si bien. On est tellement grand et tellement éphémère et tellement fragile et tellement vulnérable. Et c'est ça peut-être qui fait toute la gloire de l'être humain, mais jamais il n'a su accéder à cette gloire, malheureusement.
Trois romans donc que vous avez lus, Kuzinka, Les Hirondelles de Kaboul et L'Attentat, Yasmina Kadra. Quel lien un peu secret, quel écho entre ces trois livres pour vous aujourd'hui?
Moi.
Mais encore?
Moi. C'est quoi pour moi un livre? C'est une sonde qu'on lance dans le cosmos humain en quête d'un écho. Tout livre que je propose au lecteur, c'est un appel à ce lecteur. Je ne veux pas être seul. Je ne veux pas être unique. Je veux faire partie d'un ensemble. Je veux appartenir à l'humanité entière. C'est pour ça que j'écris. J'écris parce que j'aime. Je suis quelqu'un qui aime. Voilà. Je vous assure que je suis comme ça. Ce matin, je l'ai dit aux étudiants de l'école internationale. J'ai un gros problème. Moi, je ne sais pas haïr. Et j'essaye d'inventer mon bonheur partout où je suis. Je ne pense pas qu'il existe au monde un écrivain qui a subi ce que j'ai subi. Toute ma vie, depuis l'âge de 9 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai subi que des rejets, des malentendus, des diffamations. Et pourtant, je reste zen parce que j'aime vivre et j'aime aimer.
Lorsqu'on est traduit dans 40 langues, ça fait un gros ensemble.
Oui. J'étais à Canton, en Chine. Il y avait un libraire qui m'a dit des choses. Pourtant, il n'y a que trois livres. J'ai que trois livres traduits en chinois. Il m'a dit des choses qui m'ont permis de croire que l'espèce humaine pourrait s'en sortir, quels que soient les cataclysmes. On peut, tant qu'on a la possibilité de se comprendre, on peut aussi bâtir le monde de demain ensemble.
Que vous a-t-il dit?
Ah, je ne peux pas le... Ma pudeur m'empêche de dire ce que j'ai dit, ce qu'il m'a dit.
Nous évoquerons en fin de parcours de conversation votre dernier roman qui sort de presse ces jours-ci.
Et que je vous recommande.
La dernière nuit du Reis. Moi aussi, je vous le recommande d'ailleurs. On va passer tout de suite à Kuzinka avec les questions avec vous. Je me demanderai de vous présenter brièvement et puis d'adresser les questions que vous souhaitez à Yasmina Kadra.
Alors, bonjour Yasmina Kadra. Bonjour. Je suis Marie Crenbull et je vais donc vous poser les questions sur Kuzinka. Donc déjà, Kuzinka, on lit le titre du livre et on se demande pourquoi K? Pourquoi pas Cousine A ou Cousine U, mais pourquoi Cousine A?
J'ai écrit dans l'écrivain que j'avais aussi une cousine K. Elle s'appelle Khadra, comme par hasard. Et j'ai un rapport avec ce mot Khadra qui est vraiment troublant. J'étais un jeune sous-lieutenant, je travaillais dans au fin fond du Sahara algérien face au Maroc malheureusement, on était en guerre froide avec le Maroc, mais je devais pour rejoindre mon unité faire escale à Béchar, ma ville natale, et là toute la tribu venait me voir, et parmi, il y avait quand même un simple d'esprit, mais qui, on le disait médium, et on lui a demandé le nom de ma future épouse, il m'a dit elle s'appellera Khadra. J'ai tout de suite pensé à ma cousine. Et finalement, j'ai épousé une autre Khadra. C'est magique. Donc, ce cas-là, c'est toute une histoire pour moi.
D'accord.
D'accord. Parce que Catherine n'a pas un cas.
Oui, parce que c'est vrai qu'au début, on se demandait beaucoup si c'était, si c'était justement le cas de Khadra. Donc, vous avez répondu. Ouais. Et sinon, on pensait aussi que le son K est un son très dur. Donc ça correspondait plus ou moins au personnage de Cousine K. Où il y avait aussi cette piste de l'allusion à la nouvelle fantastique de Buzzati, le K. Et on se demandait si Cousine K avait une dimension fantastique.
Non, non, il n'y a rien de tout ça. J'ai commencé cette nouvelle. Au début, c'était une nouvelle. J'avais peut-être 24 ans. Donc, j'ai gardé ce titre parce qu'il m'importait beaucoup. J'ai vu cette cousine épouser quelqu'un d'autre et devenir malheureuse. Et j'ai épousé une autre cas que j'espère avoir rendu heureuse pour compenser un petit peu cette tragédie. Non, mais il n'y a pas de... Je ne sais pas, peut-être, mais je n'ai pas pensé à ça du tout. Ce n'est pas un cas.
Donc finalement, est-ce que ce livre ne serait donc pas une autobiographie déguisée, vu qu'on a vu que dans ce livre, justement, on a le grand frère qui part chez les cadets.
Oui.
On a aussi le personnage principal qui se sent très seul. Oui. Donc finalement, oui, est-ce que ce n'est pas une autobiographie déguisée?
Non, ça n'a rien à voir avec ma vie. J'ai voulu simplement montrer le jeune Algérien d'aujourd'hui qui a été... qui n'a plus de père, parce que vous savez, chez nous, le père, c'est surtout le guide, c'est le président, c'est lui le père. Il a une mère qui l'ignore, c'est cette patrie qui ne prend pas en charge le talent, le génie de ses enfants. Et puis, cette patrie qui n'a de regard que pour les militaires, parce qu'il incarne la force. Et le garçon, il est complètement livré à lui-même. C'est un peu aussi ce que j'avais projeté, pas projeté, mais ce que je craignais le plus. De voir le jeune Algérien devenir ce monstre implacable. Et quelques années après, c'est ce qui me préoccupait est devenu réalité avec l'avènement de l'intégrisme et du terrorisme en Algérie. Voilà.
Et en parlant des personnages, donc, on a finalement Cousine K, donc on ne connaissait pas vraiment son prénom. Le narrateur non plus est inconnu. Finalement, les seuls prénoms qu'on connaît, c'est Amine, le grand frère, et Amal, sa copine. Pourquoi ce jeu des prénoms?
Ben justement, c'est la négation de l'autre, c'est le déni de l'autre. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Même sa mère l'appelle Amine. Sa mère a oublié le prénom de son propre fils. C'est ça, je voulais vraiment que ce personnage soit complètement isolé. Il faut qu'il soit dans une solitude vampirisante qui va le dévorer, qui va l'anéantir, qui va le néantiser. Et il n'a trouvé de réaction que dans un geste de violence. Puisqu'il ne peut pas séduire par la parole, il ne peut pas séduire par l'art, par quelque chose capable de le rapprocher des autres, ben, il n'a trouvé que la violence. Et c'est, la violence, c'est quoi? C'est l'expression de ceux qui n'ont plus d'arguments sains à présenter aux autres. C'est ça la violence.
Et donc, en lisant ce livre, et d'ailleurs j'en connais aussi d'autres, et j'ai pu rattacher plusieurs livres au thème de la folie. Ça a l'air important pour vous. Dans ce roman sans doute, mais dans d'autres également donc. Pourquoi cet intérêt finalement?
Je m'intéresse au monde entier, hein. Je suis un romancier, toute chose qui m'échappe m'interpelle, et moi je n'aime pas la voir partir comme ça, sans qu'elle me dise quoi que ce soit. Donc j'écris pour essayer de discuter avec elle, de créer un lien de la fiction à la réalité, pour que je comprenne, d'abord que je me situe par rapport à mes personnages, qui suis-je moi, qui suis-je dans le monde, qu'est-ce que cette époque. C'est pour ça que je voyage à travers mes livres. J'essaie de comprendre tout ce que tous mes livres m'ont permis de comprendre. Moi, je n'aime pas aller dans un journal lire ce qui se passe dans le monde, parce que le journal, il me présente des faits. Il me présente des choses assez fugaces. Mais moi, je vais m'attarder justement sur cette chose et remonter aux sources qui ont conduit jusqu'à elle pour comprendre. Le problème, c'est que nous vivons une époque très, très... très véloce, très, très speed. On n'a pas le temps de comprendre. Même dans les médias, ils n'ont pas le temps de vérifier leurs informations. Voilà, c'est le scoop. Voilà. Et nous devons aujourd'hui nous attarder quelque part. Regardez Internet. En une fraction de seconde, une information fait le tour du monde. Mais si on reste tributaire, justement, ou si on se laisse assujettir par cette forme d'informations et de connaissances, on n'a jamais le temps de permettre à notre cerveau de travailler. Et c'est terrible. Je parlais justement, ma toute première conférence que j'ai donnée dans ma vie, ça a été à Berne, en Suisse. Et c'était au sujet de la cheptélisation des masses. La cheptélisation des masses, c'est un néologisme, parce que je considère aujourd'hui que l'information est en train de faire des masses populaires un immense cheptel. Et l'esprit sont bourgeoises, dans le sens où on ne va plus vers l'information. On va s'informer comme on va dans un supermarché. On prend le prêt à réfléchir. C'est ça qui est le danger. Quand on ne peut plus juger par soi-même, quand on se laisse embarquer par une rumeur, quand on se fait même quelquefois le défenseur d'une rumeur, c'est que quelque part on a perdu le libre arbitre et on devient, je sais pas, quelque chose qui est un sport emporté par les vents contraires. On ne devient rien du tout. On n'est plus soi-même. Moi, j'ai toujours dit aux gens, jugez par vous-même, essayez de comprendre par vous-même d'abord. Vous ramassez tout ce qu'on vous dit, vous faites un recoupement, et puis vous avez la synthèse, il faut que cette synthèse soit votre propre conviction. Vous êtes la seule vérité qui compte. Tout le reste n'est que convention, connivence. Voilà, c'est pour ça que j'écris. Même quand j'écris, je ne dis pas à mon lecteur, voilà le monde comment il est fait, je n'essaie pas de le manipuler. Je lui offre un maximum de repères pour qu'il fasse lui-même son idée.
Et est-ce que justement dans votre nouveau livre, on retrouve ce thème de la folie?
Pour la dernière nuit du Reis, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
Vous allez vous régaler.
D'accord.
Je vous assure. Ça a été, j'ai testé le livre avec mon épouse, mes enfants, 25, 22 ans et 15 ans, avec quelques étudiants qui viennent de temps en temps, algériens, mais que j'accueille chez moi à la maison, parce que quelquefois ils ont besoin d'un peu de famille, et tous ont été unanimes. Donc moi, je vous le dis tout de suite, vous allez vous régaler. Vous allez tous devenir à la fin du livre des dictateurs.
Alors ça donne envie. Donc maintenant, après Kuzinka, est-ce que vous pourriez dire que vos motivations, elles ont changé finalement depuis vos premiers poèmes?
Quelle motivation?
D'écrire.
Non, mais je continue d'écrire. Un lecteur m'a dit merci d'exister. Et je lui ai répondu merci de me faire exister. Ce sont mes lecteurs qui me donnent la force de continuer d'écrire. Et tant qu'ils seront là, je continuerai. Et vous savez ce que c'est qu'un écrivain? C'est quelqu'un qui écrit des livres. Mais celui qui fait l'écrivain, c'est le lecteur. Et son lecteur, l'écrivain n'est que l'être morte. Donc le jour où le lecteur me tournera le dos, je mourrai.
Un écrivain, c'est Dieu? Parce que vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure.
Oui, l'écrivain, c'est un Dieu. C'est un Dieu parce qu'il crée un univers qui lui échappe parfois et dont il est responsable. Et c'est à lui d'être juste ou injuste. Voilà, c'est tout créateur, un artiste, c'est un Dieu. Nous sommes même pour quelqu'un qui est dans le rêve, il devient le Dieu de son rêve, parce qu'on crée. C'est quoi Dieu? C'est un créateur.
Quelle place pour le doute?
Toujours le doute. Il est indispensable, le doute. Celui qui croit arriver n'est pas prêt de sortir de l'auberge.
Dans quelles circonstances est-ce que vous avez commencé à écrire Kuzinka? Vous avez dit, j'ai mis 20 ans à écrire ce livre, ce roman. C'est beaucoup, 20 ans.
Oui, mais j'étais dans le désert. J'étais jeune officier. Je vivais dans une casemate. Autour de moi, il n'y avait que les échos de la guerre. On ne parlait que de la guerre. Moi, je déteste la guerre. Pendant 36 ans, j'ai toujours lutté contre cette faillite du bon sens.
Mais vous l'avez faite.
Oui, obligé. Mais je ne le regrette pas, hein, parce que mon pays était en danger. Il y avait des gens qui voulaient s'immiscer dans les affaires familiales de tout un chacun. Des gens qui n'avaient que la barbarie à proposer à une nation qui était déjà assez traumatisée par la guerre d'indépendance. Donc j'ai combattu ces gens-là, et si j'avais 10 ans de moins, je crois que je serais parti combattre ces gens, encore et encore. Ils n'ont pas le droit de gâcher la vie des gens. et ils n'ont pas le droit de penser que la quiétude des autres est un territoire à conquérir. Le monde a besoin d'être tranquille, les parents ont besoin de voir grandir leurs enfants, les amoureux doivent s'aimer n'importe où, dans une salle de cinéma ou dans une brasserie ou dans la forêt, sans être inquiétés. Il faut vivre, moi je suis pour la vie, je suis contre ceux qui détruisent la vie.
Comment est-ce qu'on revient de la barbarie?
Oui, quand on revient à la raison, il faut absolument revenir à la raison. La barbarie, c'est quoi finalement? C'est un dysfonctionnement social, psychologique. Pour moi, c'est une maladie.
Mais vous l'avez vu?
Oui, j'ai...
De vos yeux vus?
Je l'ai vu, je l'ai vécu dans ma chair et dans mon esprit.
Oui.
Voilà, c'est pour ça que je ne la souhaite à aucune nation. Et je me rappelle dans les années... J'ai écrit Les années du Seigneur et À quoi rêvent les loups il y a 20 ans. Aujourd'hui, on écrit des livres, on s'aperçoit que c'est nouveau. Ouais, il a écrit sur le terrorisme, il y a tel livre. Mais déjà il y a 20 ans, je disais au monde, attention, ce qui se passe en Algérie va vous arriver à vous. C'est une pandémie expansionniste. Elle va, c'est une gangrène. Voilà.
Est-ce que l'écriture console ou répare?
Ce qui est certain, c'est qu'elle éclaire.
Elle?
Elle éclaire.
Elle éclaire, oui. Mais est-ce qu'elle console? Est-ce qu'elle répare? Est-ce qu'elle...
Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas emprunté la littérature comme une thérapie, mais comme un art.
Quand non, je ne parle pas de thérapie, mais est-ce que ça console? Est-ce que c'est consolant? Jacques Audiberti, poète français, disait que l'art rend la vie plus légère.
Oui. La littérature rend peut-être l'homme plus intelligent. C'est tout.
On enchaîne avec le deuxième roman. Qu'est-ce qui vous a touché dans Kosinka? Dites-nous. Ou ému, ou questionné.
Ou terrifié.
Non, je dirais pas que ce livre m'a terrifié, mais j'ai beaucoup senti la détresse du personnage principal, ça m'a beaucoup touché. Et finalement, il est tellement triste et tellement seul qu'il en vient à commettre l'irréparable, on peut dire ça. Mais oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre.
Moi aussi.
Passons maintenant aux hirondelles de Kaboul. C'est à vous?
Oui.
Je vous donne la parole.
Alors bonjour, je m'appelle Léonie Vermeau. En fait, dans les hirondelles de Kaboul, c'est deux couples qui, les histoires se suivent en parallèle. Donc en fait, on se demandait quel message vous vouliez faire passer par là. Est-ce que c'est que, peu importe leur rang d'avant ou leur implication par rapport aux talibans, ils en arrivent à la même fin?
Non, ce que, à travers ce livre, je voulais tout simplement dire qu'il n'y aura aucun printemps dans les pays où les hirondelles ont les ailes rognées. Voilà, le malheur déploie sa patrie là où la femme est humiliée. Si on déprécie la femme, c'est que quelque part, on se fait violence. Celui qui ne sait pas aimer la femme ne sait pas aimer la vie. C'est un malheureux, c'est un malheur itinérant, c'est un drame en gestation. Voilà, moi j'écris ce livre pour dire tout le bien que je pense de la femme et tout le mal que je pense de l'homme qui ne sait pas mériter la femme.
D'accord, donc quand Kassim il a un discours sur la femme vraiment vraiment déplorable, vous trouvez qu'en aucun cas il est défendable?
Bien sûr, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Vous savez, le ciel c'est beau hein, le soir quand vous êtes sur un banc dans un square ou bien au haut d'une colline et vous voyez ce ciel merveilleux avec constellé de lumière. Mais si vous êtes seul, vous êtes dans la méditation. Mais si vous êtes accompagné d'une femme et si vous êtes certain qu'aucune étoile dans le ciel n'a la beauté de la femme qui est à côté, vous êtes dans la vie. Vous vivez pleinement, vous êtes dans votre chair, vous êtes dans votre esprit, vous êtes dans votre plénitude. Voilà. Et j'écris ce livre pour dire à tous les gens, surtout dans le monde arabo-musulman, et l'Occident aussi a beaucoup de défauts vis-à-vis de la femme, mais dans le monde arabo-musulman, je leur dis, si vous voulez un jour accéder à tout ce qui est juste, à tout ce qui est saint, à tout ce qui est grand, à tout ce qui pourrait vous permettre d'avancer dans la vie, commencez d'abord par respecter vos femmes. Voilà, c'est ça le message que j'envoie. Une dame, un professeur universitaire, en Hollande. Elle s'est levée dans la salle, elle m'a dit, Monsieur Khadra, en sortant de votre livre, je me suis retrouvé en pleine lumière. Elle parlait des hirondelles de Kaboul. J'ai dit, mais madame, la lumière n'était pas dans mon livre. La lumière est dans votre vie, à vous. Vous vivez dans un pays où vous êtes plus ou moins respecté. Voilà, c'est tout.
Alors, comment est-ce que vous expliquez la dégradation du comportement de Mohsen par rapport à sa femme, Zunaira, qui, au début du livre, il est vraiment fou amoureux d'elle, il dit que c'est son soleil, puis à la fin, il en vient à être violent avec. Est-ce que vous pensez que c'est la frustration parce qu'elle a décidé de, pour se venger de lui, cacher son visage, ou est-ce que c'est comme au début du livre, quand il prend cette pierre et qu'il lapide cette femme, un mouvement de groupe?
Non, c'est pas ça, lui. C'est surtout dans le monde arabo-musulman ou dans le monde musulman ou dans le monde macho, l'homme est là pour protéger sa famille et pour protéger sa femme, ses enfants et tout. Lui, c'est la force de frappe de la famille. Or, Mohsen, il est là. C'est un légume itinérant. Voilà. Et il n'a plus cette chose qui faisait sa supériorité au sein d'une famille. Donc, il n'a pas su. Ce n'est pas le fait d'avoir lapidé une femme qui l'a un petit peu néantisé dans le regard de sa femme. C'est lorsqu'il n'a pas su défendre sa femme. Voilà, quand ce taliban l'a fouetté, puis il l'a obligé à rester sous le soleil, pendant que lui, il est allé écouter un imam complètement malade, complètement. C'est ça qui l'a le plus touché. C'est ça.
Merci. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de tuer, enfin on ne sait pas la fin, mais on peut penser que Nazish il meurt alors que c'est le seul qui avait un peu l'espoir de s'enfuir justement de ce cercle vicieux. Il avait décidé de partir.
Écoutez, c'est lui qui a créé son propre gibet. Il a voilé la femme. Donc il l'a en quelque sorte uniformisée. Et quand il a voulu chercher sa femme, il fallait soulever le voile de toutes les femmes qu'il avait voilées. Et c'est là son crime. Voilà, la femme, elle est faite pour être... Je ne sais pas, c'est une... c'est une féerie, la femme. Imaginez, toutes ces beautés voilées, qu'est-ce qu'on voit? L'homme, vous les avez vus avec leur barbe, avec leur air agressif, ils n'ont rien à proposer, mais toute la grâce, toute la beauté, tout l'enchantement. La femme, c'est un enchantement. Donc, pourquoi le voiler? Pourquoi le néantiser? Pourquoi comment dirais-je, l'interdire aux autres? Voilà, c'est lui, Nazish. C'est pas Nazish, c'est Kassim. Comment il s'appelle déjà?
Nazish, oui.
Non, c'est pas Nazish. Atik.
Non, parce que je parlais pas d'Atik, pardon. Enfin, Atik, c'est le personnage principal. Mmh. Il meurt à la fin, mais Nazish, c'est son ami qui avait un problème à la jambe, mmh, et qui voulait toujours s'enfuir. Il voulait partir de.
Oui, c'est le vieillard qui a toujours rêvé d'une frontière à franchir, oui. Mais lui, Atik, non. Atik, il n'a pas su être. Mais dans ce livre, c'est surtout le courage de la femme. Elle s'est sacrifiée pour que l'amour revienne dans un pays. Livré à la barbarie, au déni de l'autre, à la violence, à la répression. Vous savez comment m'est venue l'idée d'écrire ce livre? Ben, j'étais allé voir mon éditeur et je lui ai dit, je vais écrire quelque chose qui sort un petit peu de l'Algérie. Je ne voulais pas être un écrivain endémique, je ne voulais pas croire une seconde que je suscite l'intérêt parce que je parle du drame de mon pays. Je voulais savoir si j'étais capable d'écrire autre chose. Et donc je lui ai proposé d'écrire un roman sur un Indien que j'ai rencontré à Mexico qui s'appelle Domingo. Oh, il m'a dit non, c'est loin tout ça, personne ne s'intéresse au Mexique. J'ai dit ok, je voudrais écrire un livre sur l'Allemagne, les deux Allemagnes, parce que j'étais très lu à l'époque en Allemagne, beaucoup plus qu'en France. Et je faisais beaucoup de tournées. Mes tournées, c'était toujours 11 villes. Chaque tournée, c'était 11 villes. Non, pas l'Allemagne. Puis je lui ai dit, ben, peut-être que j'écrirai sur l'Afghanistan. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, ça, avec ça, tu vas te casser les dents. Ah, j'ai dit, ok. Et comme par hasard, en rentrant chez moi, j'étais à Aix-en-Provence à l'époque, je rentrais de Paris. Qu'est-ce que je vois à la télévision, l'exécution d'une femme? Ça m'a anéanti. Pourtant, j'ai vécu pendant 8 années la guerre. Attends, j'ai vu ce que l'être humain est incapable de voir deux fois de suite. Moi, je l'ai vu pendant 8 ans. Et toute la nuit, cette femme était venue m'empêcher de dormir. C'est comme si elle me demandait de raconter son histoire. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? Une femme fusillée, comme ça, froidement. Et j'étais là avec elle. Je croyais que j'étais immunisé contre l'horreur, parce que je l'ai vécu dans ma chair, de mon esprit. Et voilà qu'une image me trouble aussi fort que les 8 années de guerre que j'ai menées en Algérie. Et l'histoire a commencé à se construire. À 7 heures du matin, j'ai réveillé ma femme. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'écrire cette histoire. Elle était complètement au sommeil, mais... je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, il faut absolument commencer. Il faut écrire. Je me suis levé et j'ai commencé à écrire. Voilà, tout de suite.
Parce que vous avez l'histoire dans votre tête avant d'écrire.
Elle m'a habité d'habitude. Avant d'écrire, j'ai déjà l'histoire dans ma tête. Elle est là en train de mariner pendant des mois, pendant des années. J'ai des sujets qui sont dans ma tête depuis des années. Et je ne trouve pas le moment. Pour moi, c'est l'histoire qui s'impose à moi. Je n'ai pas à choisir. Et là, c'est, en une nuit, j'ai eu cette histoire dans ma tête.
Merci. Et juste pour revenir sur la fin du livre, qu'est-ce que vous imaginez pour Zunaïra? Parce qu'on sait que, enfin, on ne sait pas où elle est à la fin, et par contre, on sait que ses chances de s'en sortir, elles sont assez faibles. Donc, pourquoi elle et pas un des autres 4 personnages restent en suspense à la fin?
Non, mais je n'ai pas le droit de savoir ce qu'elle est devenue, parce qu'elle m'échappe, parce qu'elle est devenue libre. Voilà, elle est partie. J'espère qu'elle a rencontré un bon parti, qu'elle a refait sa vie. Des Américains m'ont proposé une somme astronomique pour raconter ce qui est devenu Zunaïra. J'ai dit, aucune somme au monde ne pourrait égaler sa liberté. Je préfère qu'elle soit libre, qu'elle échappe à tous les hommes sur Terre.
Merci.
D'autres questions sur ce roman? Oui, je vous en prie.
Alors tout d'abord, enchanté, Bruno de Kim. Nous avions une question par rapport, alors quel est le personnage qui est le plus proche de vous, en fin de compte? Peut-être Zunaïra, puisque vous attachez autant d'importance à la femme.
Oh, je crois que c'est surtout la femme d'Atik, Moussarat. Okay. C'est elle qui est plus proche, qui me ressemble le plus.
Et pourquoi?
Parce qu'elle s'est sacrifiée pour l'amour et je suis capable de le faire aussi.
Ok. Merci. Et vous sentez-vous davantage Yasmina Kadra ou bien Mohamed Moulessoul? Quel changement ce pseudonyme, a-t-il opéré en vous?
Aucun changement. Je suis moi. Je suis comme Kadhafi. Je ne suis digne que d'être moi. Non. Je ne sais pas ce qui se passe avec les autres. Moi, je suis toujours le même. Que je m'appelle Mohamed ou Yasmina, ça ne change rien parce que quand je suis dans mon texte, je disparais de la surface de la Terre. Je suis happé par mon histoire, happé par mes personnages, happé par mes fulgurances. Je suis une plume qui raconte quelque chose. Mais l'avantage que j'ai avec Yasmina Khadra, c'est qu'avant, on m'envoyait beaucoup de lettres d'amour. Il y a des écrivains, des artistes qui m'envoyaient des lettres d'amour avec des poèmes, avec des cœurs traversés par des flèches, par des crises et tout. Voilà. Et l'autre avantage, c'est que dans certains festivals pauvres, on mettait 2 écrivains par chambre.
Et
il n'a pas compris.
Non, au fond, être écrivain, c'est un métier formidable.
Oui, si on considère la littérature comme une générosité, il n'y a pas mieux que la générosité. Mais en même temps, ça a ses déboires aussi. Parce que quand vous écrivez, autant vous avez... D'ailleurs, je l'ai écrit quelque part. Là où vous êtes encensé, d'autres vous enfument. Il y a des gens qui vous aiment énormément, pour la même raison que d'autres vous détestent énormément aussi.
À quoi ressemble votre vie?
Elle ressemble à ma femme. Elle est belle.
Et juste encore une question, en nous référant à votre roman Les Hirondelles de Kaboul, qui se déroule en Afghanistan, nous nous demandions quelle méthode de travail vous avez utilisée pour vous documenter sur le pays.
Moi, je n'aime pas beaucoup me documenter parce que ce qui m'importe, c'est les mentalités des gens. En Algérie, on avait des talibans, des gens qui avaient fait l'école de Peshawar, qui étaient venus instaurer chez nous un État théocratique à l'image même conforme au projet des talibans. Donc j'ai vécu avec ces gens-là, j'ai compris ce qui est l'engrenage défectueux qui tournait dans leur tête, mais ce qui m'importe, c'est surtout le message. Le message, ça reste un message humain. C'est pour ça que je suis un petit peu accueilli de la même façon dans le monde entier. Parce que le message est humain, il n'est pas régional, il n'est pas racial, il n'est pas ethnique, il est humain. Et ce que j'écris, n'importe quel lecteur dans le monde le partage. Parce qu'il se reconnaît, il est en même temps, on a le même regard. Ce qui est bon, et ça se voit que c'est bon, ce qui est mauvais, ça se voit ce qui est mauvais. Mais dans mon élan littéraire, c'est surtout pour éveiller les consciences. Voilà.
Bonjour, donc moi je m'appelle Virginie. Nous on avait surtout des questions, pas par rapport au livre, mais par rapport à vos opinions. Entre autres, comment vous vous situez sur la question du tchadri? Du tchadri.
Moi je suis un poète. Moi, j'aime bien aller sur les plages espagnoles et voir des femmes comme ça, dénudées. Il y a quelqu'un qui a écrit un prophète marche sur l'eau. Je crois que je peux ne pas être tellement fidèle au poème parce qu'il est très ancien. Je l'ai appris quand j'avais peut-être 14 ou 15 ans. Je crois qu'il est de Jacques Prévert, mais je ne suis pas sûr. Il dit, un prophète marche sur l'eau, une femme nue se dort au soleil. Quelle est la merveille des merveilles? Je vous laisse deviner.
Merci.
Moi, je n'aime pas le tchadri. Pourquoi le tchadri? Pourquoi faut-il croire que la femme, c'est une honte ambulante? Pourquoi faut-il la cacher? Dieu a mis tout son talent pour faire de cette femme une merveille. Et l'homme, cette créature néfaste, stupide, gnomique, vient comme ça baisser le rideau. Non. Moi, j'ai ma femme, maintenant, elle porte le voile. Elle porte le voile depuis une année. Mon Dieu, son voile, elle est d'une beauté. On l'appelle Lady Diana. Elle ressemble beaucoup à Diana. Moi, je ne ressemble pas beaucoup à Charles et c'est bien pour moi. Mais elle, vraiment, elle porte le foulard. Ça me dérange, mais c'est sa liberté. Pourquoi? Parce qu'on a fait le pèlerinage ensemble. Et dans notre religion, quand on fait le pèlerinage, la femme doit porter le voile. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle l'enlève. Mais je ne peux pas l'obliger. Elle le fait par piété, pas par autre chose, pas pour l'ostentation. Et elle sait que je n'aime pas beaucoup ça, mais je dois respecter son choix.
Notre question suivante, ce serait, pourquoi avez-vous continué votre carrière militaire aussi longtemps, en sachant que vous avez toujours eu un peu envie, cette envie d'écrire?
C'est à cause de ma mère. Je ne pense pas avoir connu une personne au monde qui ait souffert comme ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère heureuse 5 minutes de suite. Jamais. C'est une femme... on lui a ravi ses enfants. Vous savez, quand mon père m'a confié à cette institution militaire, il n'avait rien dit à ma mère. Pendant 4 mois, elle ne savait pas où j'étais. Ni moi, ni mes autres frères, parce qu'on a été 3 frères et 2 cousins. Voilà. Et cette femme, elle a été sévèrement mal servie par la vie. Et quand j'ai eu mon bac, je voulais déserter, aller à l'université. Je rêvais de faire sociologie, c'était mon rêve, faire sociologie. Et mon père voulait que j'aille à l'académie militaire. Et moi, j'étais prêt à pour une fois désobéir à mon père. Et un soir, ma mère m'a dit, mon fils, tu es mon seul bonheur, mais il va falloir le prouver. Je veux que tu ailles à l'académie unitaire, que tu deviennes beaucoup plus supérieur à ton père. C'était sa revanche sur mon père, parce que c'est une femme qui a été répudiée à l'âge très jeune, 27 ans, elle avait déjà 7 gosses. Pour elle, j'ai accepté de lui offrir 25 ans de ma vie, mais juste pour l'avoir heureuse. Et pourtant, quand j'ai quitté l'armée, pendant 2 ans, elle ne m'a pas adressé la parole. J'étais connu dans le monde entier. Mais pour elle, je l'avais trahi. Ce n'est que dernièrement qu'elle a commencé à comprendre que je suis beaucoup mieux en tant qu'écrivain qu'en tant que militaire, qu'en tant qu'officier.
Voilà. J'imagine que vous avez d'autres questions qui sont un peu générales, entre guillemets, c'est ça? Parce que sinon, on les regroupe tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on revienne au livre.
J'aurais souhaité en passer une sur le livre en rapport avec la famille. Okay. Ce serait pourquoi vous n'avez introduit aucun enfant dans le roman Les Hirondelles de Kaboul?
J'aime pas voir les enfants souffrir. Je l'ai fait une seule fois dans Morituri et ça m'a beaucoup blessé. Je n'aime pas raconter la mort d'un enfant. Pour moi, c'est contre nature. C'est contre nature. Je n'accepte même pas que le ciel puisse ne pas intervenir quand un enfant est en danger. Vous avez vu l'image d'hier de cet enfant échoué sur la plage? Pour moi, aucune prophétie, aucune poésie, aucun paradis ne pourrait nous faire pardonner une telle image. Voilà, j'aime pas voir les enfants souffrir.
Vous m'avez dit ce matin, vous nous avez dit ce matin que vous aviez la vocation de l'écriture, très jeune. Comment est-ce que vous en avez pris conscience? Vous vous souvenez de...
Non, je suis venu pour écrire. Je suis venu au monde pour écrire. Alors, j'ai dit, je suis né écrivain, poète, comme l'oiseau né musicien. C'est dans mes gènes. J'ai hérité ça de mes ancêtres. Les Moulsoul, c'est mon nom, c'est une dynastie. Moi, sans la France, sans la colonisation, je serais aujourd'hui un monarque. Je suis un descendant direct des Moulsoul. Je serai maintenant avec un harem, 180 enfants, voilà. Non, je suis né pour écrire, j'adore ça. Déjà quand j'étais petit, je griffonnais tout ce qui avait une rime, pour moi c'était la poésie. Même si ça n'avait aucun rapport, ben pour moi j'aimais la musicalité du verbe.
Mais vous l'avez su très vite ça, comment, vous vous souvenez?
Je ne sais pas. Il y a des enfants qui très jeunes s'éveillent à quelque chose, à un piano, à une guitare, à une voix. Je ne sais pas, c'est naturel pour moi.
Donc vous avez eu un certain nombre d'années cette vocation?
Oui, j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans.
Oui. Non, mais je veux dire, après, il y a eu l'école militaire, ensuite votre carrière à l'armée pendant toutes ces années. Alors, vous écriviez comme ça, mais finalement, vous avez dû taire votre vocation. Enfin,
pas du tout.
La brider, si.
Non. Hourie, je l'ai écrit à l'âge de 17 ans, j'étais encore cadet. Oui. J'étais pas encore officier. Quand j'ai quitté l'armée, j'étais déjà traduit dans 12 pays. Mais sans que personne ne le sache. J'ai écrit pendant 11 années dans la clandestinité. Quand j'ai écrit le commissaire Loeb, la naissance du commissaire Loeb, je la dois à cette clandestinité. Voilà,
Donc pour écrire, vous êtes rentré en...
C'est vrai, c'est bien de m'avoir posé cette question. Beaucoup de gens pensent que j'ai commencé à écrire en quittant l'armée. Mais non, j'ai commencé à écrire très jeune. Mon premier livre est sorti en 1984. J'étais soldat à l'époque.
À compte d'auteur?
Le premier, oui.
Amen.
Amen. Mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, compte d'auteur. Moi, je pensais que tous les écrivains devaient payer ça. Et donc, il m'a vraiment eu, cet éditeur. Et il en a sorti 5 exemplaires, mais je l'ai payé pour 1000.
Voilà. Tout à l'heure, on va parler de l'attentat maintenant, mais tout à l'heure, sur... À propos de Kuzinka, vous avez dit, j'ai mis 20 ans à l'écrire. Ouais. Ça veut dire que vous l'avez pris, repris, retrouvé, perdu
Non.
20 ans, c'est long, 20 ans.
Oui, mais cette nouvelle est restée avec moi toute ma vie, pendant 20 années. Je ne l'ai pas perdue, elle était là. De temps en temps, je l'ouvrais, j'ajoutais un mot, j'enlevais une phrase. Je construisais doucement. Je voulais vraiment, c'est mon rapport direct avec la langue française. C'était un exercice de style.
Ah, la langue française est avec votre langue à vous, parce que dans votre écriture, c'est la langue française évidemment, mais il y a votre langue à vous.
Ben j'espère. Sinon à quoi ça sert d'écrire comme les autres?
Comment est-ce qu'on trouve sa langue?
Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est déjà dans notre bouche. Je ne sais pas, ce sont des questions qui me dépassent. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Je sais pas. C'est une nature, je crois. C'est une nature.
C'est un travail aussi.
Beaucoup. Surtout la langue française, ce n'est pas ma langue maternelle. Je l'ai croisée à une bretelle de ma vie. J'avais 14 ans avant la langue française. J'étais nul, complètement nul. J'avais un 6 sur 20 à chaque copie. Je ne m'intéressais pas à elle. Et puis quand je l'ai découvert grâce à un professeur français, il est français, mais il est français, grâce à ce professeur, j'ai aimé ce professeur et j'ai voulu ne pas le décevoir. Et j'ai aimé sa langue en même temps et ça a été fantastique.
Voilà. Venons-en à l'attentat. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Myriane Friedel, je suis dans la 3EC1 et on a lu donc votre livre qui s'appelle L'Attentat. Et après avoir lu votre ouvrage, on est venu à la conclusion que dans votre livre, on peut être mené à penser que vous faites référence à Candide. Premièrement parce que les deux héros vivent dans un monde presque parfait, ou en tout cas de leur point de vue, qui s'écroule du jour au lendemain. Et aussi du fait qu'Amine fait... comme Candide, preuve à de naïveté, d'aveuglement par rapport à sa femme. Et, il n'a strictement rien vu venir. Est-ce que Amine est Candide?
Amine se situe aux antipodes de Candide. Il n'a absolument rien à voir avec Candide. D'accord. C'est quelqu'un qui a cru dans le discours politique. Il a pensé, en devenant médecin, et en rendant service à pas mal de patients, il allait s'intégrer dans une société. Le livre, l'attentat, parle surtout de l'intégration. Est-ce qu'on peut rester soi en vivant avec les autres? Ou est-ce qu'on peut devenir les autres à force de donner le meilleur de soi? C'est la question que pose le roman. Et la réponse est non. Et non parce que les humains n'ont jamais réussi à grandir. Ils sont restés... tributaire de certains stéréotypes, de certains clichés, et la colère détruit tout de suite tout ce qu'ils ont construit. Voilà, c'est... Non, c'est pas Candide. Mais Jafari, c'est quelqu'un qui a été aveugle, c'est vrai, mais pas naïf.
D'accord, très bien. Merci. Et dans votre ouvrage, vous débutez par une prolepse. On parle souvent que lors de nos derniers instants, on revoit notre vie défiler. Est-ce une référence à cela ou est-ce que vous avez une autre explication littéraire? Quel était votre but?
C'est exactement ça. C'est à la fin quand il est en train de mourir et il revoit sa vie. Mais vous savez, généralement, on regrette ce qu'on a fait quand on n'a plus la possibilité de réparer quoi que ce soit. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de bêtises quand on est en vie.
Nous avons aussi constaté que votre style est lyrique, chargé en métaphores et en figures de style. Quel effet recherchez-vous lorsque vous avez créé cet ouvrage?
L'amour de la langue. J'adore cette langue. Pour moi, c'est fusionnel. C'est comme si je suis avec une superbe dame. Voilà, et j'essaie de mériter son sourire, son habileté. Sa fulgurance, voilà. Moi, je suis dans une sorte d'euphorie quand j'écris.
Et le personnage d'Amine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est médecin, chirurgien, est dit avoir pour vocation de soigner et refuse ainsi de prendre parti. Pensez-vous que ce soit vraiment possible de s'abstenir, de prendre position dans des situations aussi extrêmes que celles que vous décrivez? Est-ce important pour vous de ne pas prendre parti?
Pour moi, non. Pour moi, non. Mais pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et la meilleure des... la preuve évidente, c'est ce gynécologue palestinien qu'on a vu à la télévision plusieurs fois et qui, chaque matin, allait au checkpoint pour rejoindre ses patients de l'autre côté de la frontière, en Israël. Il avait beaucoup de patients... de patientes israéliennes. Et voilà, il était persuadé qu'il était dans la justesse des choses, il était dans la maturité. Un être humain, c'est d'abord un être humain. Ce n'est ni un juif, ni un arabe, ni un musulman. C'est d'abord un être humain. Lui, il était dans l'humain. Jusqu'au jour où on l'a vu en direct, au bout du fil, interrogé par un plateau de télévision, et d'un seul coup, on entend boum. Et puis, quelques secondes après, on l'entend hurler. Un missile venait de détruire sa maison, alors qu'il était en ligne, en direct, avec un plateau de télévision. Et il revenait tout en pleurant et en criant, il venait de perdre trois de ses filles. Voilà, c'est ça l'absurdité que je déplore. Je l'ai dit ce matin à l'école internationale, il n'y a rien de plus précieux que la vie. Ni la patrie, ni la religion, ni l'idéologie. La seule chose qui compte, la seule chose essentielle, la cause suprême, c'est le droit à la vie. N'allez jamais offrir votre vie pour un slogan ou pour un idéal. Ça ne peut pas être meilleur que votre vie.
Voilà,
c'est tout ce que je veux. Il faut que il faut profiter jusqu'au bout. Parce que déjà, nous avons tellement d'ennemis. La nature nous a préparé tellement d'ennemis. L'échec, la désillusion, la maladie, les accidents. Et pourquoi aller sacrifier cette chose qui nous appartient? Et je répète exactement ce que j'ai dit aux étudiants de l'école internationale ce matin. Il y a un personnage, c'est ma philosophie. Un poète dans Aquarevillu qui dit: de mes peines, je n'ai aucun regret. De mes joies, aucun mérite. Pour moi, l'histoire n'a que l'âge de mes souvenirs et l'éternité, la fausseté de mon sommeil. Je suis persuadé qu'avant moi, le monde n'a jamais existé. Et après moi, le monde n'existera plus. C'est dans cet espace d'existence qu'il va falloir être utile aux autres. C'est la seule façon pour nous de mériter d'exister. La vocation véritable d'un être humain, c'est d'être utile aux autres. Et si vous voulez un jour faire de votre vie un socle, le socle de toutes les espérances, apprenez à être utile. Toujours utile aux autres.
Très bien. Et une dernière question. Pourquoi avoir choisi d'intégrer tous ces personnages secondaires dans ce livre? Ont-ils pour fonction de pousser Amine à prendre parti d'un côté ou de l'autre?
Non, chacun défend son... Moi, je ne suis jamais dans la caricature. Quand je fais parler un imam, j'essaie d'accéder à sa rhétorique et je n'y arrive pas malheureusement. Parce qu'il faut vraiment écouter ses prêcheurs. J'allais dans les mosquées avant et quand j'entendais ces gens-là, mon Dieu, quel discours. Ils étaient capables de squatter votre esprit en quelques phrases. Donc voilà, ici, je suis dans la confrontation. Il n'y a pas de caricature. Chacun défend avec des arguments solides et avec conviction son idéal. Là, c'est, il fallait, mais est-ce que lui il a compris ou est-ce qu'on l'a compris? Ça, c'est à vous de décider.
Merci pour vos réponses.
Alors, avant tout, bonjour Yasmina Khadra.
Quelle voix, c'est une voix de stentor, lui. Voilà.
Alors, je vais vous poser une question sur le prologue du livre L'Attentat. J'aimerais savoir quel est le but de ce prologue, parce qu'il trompe un peu le lecteur au fait qu'il ne sait pas trop à quoi il correspond. Au début du livre, on prend du temps à comprendre que le prologue est en fait la fin de ce livre. Donc j'aimerais savoir ce que vous recherchiez à faire en le plaçant ici.
C'est la boucle. C'est un roman circulaire. Il commence par l'accident et revient à l'accident, c'est tout. Moi, je n'ai jamais essayé de tromper le lecteur.
Donc il...
C'est le lecteur qui se trompe.
Donc il représente un peu en fait une sorte de cercle vicieux dont vous nous parlez dans le livre.
Absolument. C'est cette tragédie qu'on croit derrière nous et qui nous attend au tournant. On fait les mêmes erreurs. C'est la preuve qu'on n'a pas évolué. Et sans vouloir être pessimiste, moi je suis un optimiste invétéré.
Ça ne se remarque pas beaucoup dans vos romans.
Oui, mais non. Mais je vais justement, sans être pessimiste, je me suis toujours demandé si depuis la nuit des temps, l'aube de l'humanité s'est levée ou pas. Et dans ce livre, moi je ne suis pas pessimiste, je suis objectif. J'essaie de dire les choses telles qu'elles sont, pour que le lecteur s'éveille à ses responsabilités. Donc il n'y a pas de gens, d'ailleurs ça a aidé beaucoup de gens à comprendre le monde aujourd'hui. Donc quand on est dans la compréhension, quand on est dans le... Dans la proposition saine, on ne peut pas être pessimiste. Moi, il y a de l'espoir, mais pas dans le livre, chez le lecteur. De s'apercevoir, par exemple, qu'une lectrice, elle s'aperçoit qu'elle n'appartient pas au règne des talibans. Elle a l'espoir, peut-être, d'échapper à tout ça et de ne jamais permettre qu'une telle chose, une telle abomination s'ancre chez elle. Voilà, c'est ça le travail. Mon travail, c'est ça.
L'espoir, c'est donc en réaction.
Oui, c'est une réaction.
Donc l'ambiance sombre de ce roman ne reflète absolument pas votre vision du monde ou votre vision de la vie.
Pardon?
L'ambiance sombre qui règne dans ce roman, dans une sorte de détresse.
Les détresses, oui, mais...
Ça ne représente pas du tout votre vision du monde. Vous voyez le monde complètement autrement de ce que vous décrivez.
Non, je vois le monde tel qu'il est. Cette détresse existe. Elle existe. Je ne l'ai pas inventée. Mais en même temps, cette détresse nous interpelle. Nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que de pareils dysfonctionnements, pareilles dérives ne s'éternisent pas? Il faut bien trouver une solution à un drame. Hein, moi, je n'aime pas voir la violence. Je déteste la violence. C'est la faillite du bon sens, la violence. Je l'ai toujours combattue. Mais je ne vais pas raconter des romans, comment on appelle ça, à l'eau de rose. Moi, c'est pas ma vocation. J'ai traversé une guerre, je sais qu'elle est inutile. J'ai vu mourir des gens qui seraient aujourd'hui peut-être des jeunes mariés ou des mamans ou des papas. Alors qu'ils ont le droit de vivre. Et c'est pour ça que j'écris. C'est pas la détresse, c'est le monde tel qu'il est. Et j'ai dit à un journaliste, je préfère rencontrer la violence dans un livre que dans la rue. Parce que dans un livre, je peux toujours la cerner, je peux la dominer, je peux la comprendre. Mais dans la rue, elle me menace directement. Elle ne me laisse pas le temps de réfléchir.
Donc pensez-vous que cette détresse vient de l'homme en lui-même ou de la société qui l'entoure?
C'est la même chose. Nous sommes les bâtisseurs de nos rêves. En même temps, nous sommes les fossoyeurs de ces mêmes rêves. Tout vient de chez nous, de nous. Tout, le malheur comme le bonheur. Il y a des gens qui ont choisi d'aller dans la brousse saharienne, africaine, qui ont choisi d'aller dans l'Amazonie, qui ont choisi d'aller au fin fond de l'Asie pour sauver d'autres peuplades. Ils ont renoncé au confort de Genève, de New York, de Francfort, pour aller vivre au plus près de la détresse des autres, pour les soigner, pour les aider. Pour ça, ce sont des humains. Et d'autres qui ont renoncé au confort, le même confort, pour aller en Syrie faire la guerre. Et pourtant, ce sont des êtres humains. Tous les deux ont leur raison. Et c'est à nous de trouver où est le tort, où est la raison dans ces deux mêmes raisons. Qui a tort et qui a raison? Moi, je trouve que celui qui va vers les autres, qui va aider, il est dans l'humain. Celui qui va détruire, il est dans l'animalité.
Avez-vous été sur place pour écrire ce livre ou parler à des gens qui vivaient dans la même situation que certains de vos personnages, ou avez-vous tout simplement écrit par inspiration?
Non, je n'ai pas été en Israël. J'étais à proximité, j'étais au Liban, à Jordanie, mais pas en Israël. Mais j'ai des amis israéliens, des amis absolument formidables, qui savent tenir un débat sans violence, un débat intelligent. Et je connais aussi le problème des Palestiniens. J'en ai eu, quand j'étais dans l'armée, j'ai eu des officiers palestiniens sous mon autorité. Je les ai formés. Et voilà, c'est un problème qui me touche, comme la Syrie, comme l'Irak, comme là où le malheur a choisi de planter ses bannières. Moi, je ne supporte pas qu'au XXe siècle, il existe encore des génocides. C'est impossible, il faudrait bien s'inspirer de l'histoire. Il faut retenir la leçon de l'histoire. Je ne comprends pas, des fois je me demande si ça ne fait pas partie de la sélection naturelle, toutes ces guerres. Si chaque génération réclame sa part de tragédie, c'est comme si la tragédie était quelque chose d'absolument vital, absolument nécessaire. Elle n'est pas nécessaire, la tragédie. Elle n'est pas nécessaire. Et pourtant, elle est chaque fois. On vient de sortir du nazisme, on se retrouve avec un autre nazisme idéologique, même pas idéologique, tout simplement crapuleux. Voilà, c'est terrifiant. À quoi ça sert de faire d'écrire des livres, de faire des films, si ce n'est pas pour nous éveiller à l'autre possibilité, c'est-à-dire accéder à son bonheur. Voilà.
Et une dernière question, d'où vous est venue l'inspiration pour écrire ce livre?
Oh, d'une grande déception du monde littéraire. Ce livre, normalement, c'était la fin pour moi. j'ai écrit ce livre pour dire adieu à la littérature. Je ne voulais plus entendre parler de littérature. Je ne voulais plus entendre d'intellectuels ou de milieux littéraires. J'étais tellement choqué par... Quand j'étais dans l'armée, j'ai beaucoup idéalisé ce milieu. Pour moi, un écrivain devait absolument incarner son talent. Sinon, il était utile à ça, justement. Et quand j'arrive dans ce milieu, il était tellement... odieux, ignoble, injuste, cruel, que j'ai dit non, je ne suis pas fait pour ça. Et j'ai écrit ce livre comme faire mes adieux. J'avais décidé de ne plus jamais écrire. Mais ce livre m'a rappelé à la littérature. Il m'a dit, c'est un combat comme tous les autres combats. Tu as mené une guerre contre des barbares, il va falloir mener une guerre aussi contre les faux intellectuels. Voilà, et le combat continue. Moi, j'écris des livres, mais en même temps, il y a des gens qui m'attaquent. Et moi, je réponds par des livres. Il y a des calomnies, il y a des diffamations, il y a tout ce qu'on veut. Je suis blacklisté. Je peux écrire le plus grand livre du monde. Je ne serai jamais consacré en France. Mais moi, je prouve que je suis capable d'écrire le plus grand roman du monde. Et je me fous royalement de la consécration. Parce que ce qui compte, la véritable consécration, c'est cette certitude de n'avoir pas failli, d'avoir fait œuvre utile, d'avoir offert à des gens quelque chose capable de les émerveiller, de les faire voyager, de les instruire. Voilà, c'est ça.
Donc si j'ai bien compris, c'est en essayant de faire vos adieux que vous avez trouvé la motivation pour en fait continuer. C'est en essayant de faire vos adieux que vous avez décidé de continuer.
Non, le succès formidable m'a éveillé à cette chose essentielle. Ce n'est pas les institutions littéraires qui font l'écrivain, c'est le talent. Avant, je croyais que c'était les institutions littéraires qui faisaient l'écrivain, la reconnaissance de ses pairs qui faisaient l'écrivain. Et puis non, quand j'ai vu ce succès planétaire de ce livre, 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde, sans parler de piratage, je me suis dit, non, je suis utile. C'est ma place. Ma place n'est pas dans les institutions, elle est dans cette générosité. Et c'est pour ça que je suis revenu.
D'accord, merci beaucoup.
C'est moi.
Pour écrire La dernière nuit du Reis, qui vient de sortir de presse, Yasmina Kadra, vous avez recours, comment dire...
J'ai aussi des questions pour l'attentat.
Pardon.
J'ai aussi des questions pour l'attentat.
Ah, alors allez-y.
Excusez-moi. Alors, je m'appelle Xavier. Pour le roman L'attentat, vous avez choisi le thème du conflit israélo-palestinien, alors qu'il est déjà très présent dans les médias. Qu'est-ce que finalement votre roman amène de plus? En quoi est-ce qu'il est original?
Parce qu'il est singulier. Jamais aucun écrivain n'a traité ce problème comme je l'ai fait. Quand j'ai écrit ce livre, la confrontation juif-arabe n'existait plus, puisque j'ai créé le socle Jafar, qui est arabe et israélien en même temps. C'était ça mon idée. Et de cette manière, je n'étais plus dans le parti pris. Je n'étais plus dans la dénonciation. J'étais face à l'absurdité humaine. Je l'ai convoqué, cette absurdité. Je l'ai mis face au lecteur, je lui dis, voilà ce que vaut tout ça, cette idéologie. Voilà, c'est tout. Donc c'est ça la singularité. Il y a des Palestiniens qui ont parlé de leur Palestine, des Israéliens qui ont parlé d'Israël. Moi, j'ai essayé de parler de cette terre qui est... Moi, je suis croyant, donc je peux me permettre de le penser. Cette terre qui est faite pour, justement, rassembler tous les croyants du monde et prouver que on ne peut pas vivre sans fraternité, on ne peut pas vivre sans partage. Et on a fait de ce pays un territoire de guerre, de rejet, de racisme, de meurtre au quotidien. Cette terre ne devait être irriguée que par la sueur et les larmes de joie. Elle est irriguée que par le sang. Moi, je ne le supporte pas. Voilà, c'est tout.
D'accord. Et dans le roman, c'est une femme qui commet l'attentat. Pourquoi avoir choisi une femme pour faire cet attentat? Est-ce que vous vouliez rompre avec certains stéréotypes, par exemple l'idée qu'on peut donner à une femme de douceur, ou vous visiez un autre but?
Ben, c'est la réponse, c'est dans le texte. L'homme a créé la guerre, la femme a créé la résistance.
Et pour ce personnage de la femme, est-ce que, comme pour le docteur Jafari, vous vous êtes imaginé en elle? Est-ce que vous êtes vraiment... Voilà, est-ce que vous avez réfléchi à comment, pourquoi, comment est-ce qu'elle a fait ça?
J'ai voulu que cette femme fasse la chose la plus abominable qui puisse exister au monde. Elle est allée se faire exploser dans un fast-food où il y avait des enfants. Et que faisaient ces enfants? Ils fêtaient l'anniversaire d'un camarade. C'est terrible. C'était le summum de la je ne trouve pas le mot, de l'ignominie. Il y a des enfants qui sont en train de fêter l'anniversaire d'un des leurs, et il y a quelqu'un qui vient se faire exploser, les tuer tous. Ça, c'est abominable. Mais c'est aussi mon cri de désespoir. Arrêtez cette mascarade. Vivez votre vie. Dans un film que j'ai écrit, dont j'ai écrit le scénario, et à la fin, il y a une fille qui dit à sa mère, j'ai fait mon devoir. C'est une chrétienne, une belge, qui est allée se faire, faire la guerre en Syrie. Et elle est là, sa mère la retrouve finalement, je ne raconte pas la fin, mais elle lui dit ça. Je n'ai fait que mon devoir. C'est la fille qui dit, je n'ai fait que mon devoir, parce que son petit ami, il est intégriste. Il l'a endoctriné. Je n'ai fait que mon devoir. Et sa mère lui dit, mais ma fille, le devoir de tout un chacun est de vivre et de vivre et de laisser les autres vivre aussi. C'est ça le devoir d'un être humain. Et là où l'on parle de meurtre, de guerre, ce n'est pas un devoir. C'est une absurdité qu'il va falloir un jour abroger. Mais le monde est imparfait.
D'accord. Et par rapport au thème déjà du conflit israélo-palestinien que vous avez choisi et au travers de vos personnages, qu'est-ce que vous aviez cherché à porter? Quel est le message que vous essayez de porter?
Ben, je viens de vous le dire. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Ni patrie, ni religion, ni idéologie. La seule chose qui nous appartient véritablement, c'est notre vie. Après nous, il n'y aura plus le monde, et avant nous, le monde n'a jamais existé.
Et vous avez déclaré une fois que la littérature devait être porteuse d'espérance. Oui. Est-ce que c'est là qu'elle se trouve, l'espérance, dans votre roman?
Oui. Mais tout l'espoir est là. Respecter la vie. Bah, c'est magnifique. Quel programme.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Juste un mot à propos de La dernière nuit du Rice qui sort de presse, Yasmina Kadra, qui est un roman shakespearien et qui a le souffle de la tragédie grecque dans ce roman. C'est une chose que vous avez délibérément choisi, voulu.
Oui, j'ai pris les trois facteurs essentiels de la tragédie, j'ai construit mon œuvre dessus, parce que ce Kadhafi, ce n'est pas n'importe quel dictateur, c'est un personnage pluriel, il est affectif, il est affectueux, il est cruel, il est généreux, il est radin, il est vaillant, il est lâche, c'est pas Saddam, c'est pas Hitler, c'est pas Hafez al-Assad, c'est un personnage de tragédie. Voilà, il incarne tout ce que l'homme a de plus terrifiant en lui. Il est la nuit en pensant être le jour, il est le tyran en pensant être le sauveur, il est l'aveugle en se voulant guide. Voilà, il faut vraiment lire ce texte-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup. Non, c'est la tragédie. Sophocle aurait adoré ce personnage. Homère aussi, il aurait écrit Télémaque, Ulysse et Kadhafi. Rabelais, il aurait écrit Pantagruel, Gargantua, Kadhafi. Mm-hmm. Shakespeare, il aurait écrit Kadhafi, 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 en oubliant tout le reste, les Roméo, Juliette. Ouais, c'est un personnage. C'est le personnage de la folie, c'est la folie lumineuse, c'est la folie lumineuse parce que elle porte en elle la flamme du bûcher. C'est une vision assez manichéenne du monde. Pour lui, l'Occident c'est l'ennemi, les Arabes c'est le bon. Il y a des choses, je ne peux pas, j'ai écrit un roman pour le dire, je ne peux pas l'expliquer en quelques mots.
Quelle place occupe le désert dans votre vie?
Je suis né dans le désert, j'y vais à chaque occasion. La dernière fois, j'étais allé au fin fond du désert, j'étais seul dans ma voiture pendant 4 jours sous un soleil de plomb. J'avais pas de téléphone, j'avais rien. J'avais quelques dattes, quelques pains et j'ai fait la 16. C'est fantastique. C'est un monde intérieur qui nous renvoie à notre finitude, à notre fragilité. Et je vois toutes ces montagnes qui ont vu passer tant de caravanes depuis des millénaires et je me dis, je ne suis qu'un grain de poussière dans un souffle, dans un coup de vent. Voilà. Et ça me, ça m'apaise et ça me renvoie à ma... ça, je recouvre mon humilité dans le désert.
Il nous reste quelques minutes pour vous, là dans la salle. J'imagine que vous avez envie d'intervenir. Donc vous faites un petit signe qu'on vous voit. C'est comme dans les conférences de presse, le plus difficile est toujours la première question.
C'est dur hein, de passer à l'école internationale il y a quelques heures et puis vous rencontrer. J'espère ne pas avoir été décevant. Je me suis un peu fatigué. Voilà. Je vous assure, c'est très dur. Ce matin, vous auriez dû venir tous à Genève. On aurait fait la fête.
Je me permets de prendre la parole. Donc, j'aurais une question sur vous-même, donc sur votre nom, Yasmina Kadra. Vu que vous avez un...
Ici,
toujours. Donc, comme vous avez un pseudonyme féminin, je me demandais si vous aviez déjà écrit en tant que narratrice, ou si vous vouliez le faire, ou si vous vous sentiez capable d'écrire en tant que femme, en fait, de vous mettre dans la peau d'une femme en tant que narratrice et non pas narrateur.
Il est malin. Hein? J'ai commencé à écrire sous mon vrai nom. Il faut vraiment raconter cette histoire. Mohamed Moursoul, j'avais écrit 6 livres sous mon vrai nom. J'étais soldat et j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'armée qui ne supportait pas. Elle me considérait comme un paria. Et puis, je pouvais donner d'autres idées, des idées à d'autres officiers. Parce que dans cette armée, il y avait aussi des artistes, des comédiens qui rêvaient aussi, qui avaient des vocations artistiques terribles. Donc moi, j'étais un petit peu cette flamme qu'il fallait éteindre pour que tout le monde retourne à l'obscurité. Et j'ai eu ce problème de censure. Et j'étais à Tamanrasset à l'époque, c'est les Hogar, hein, c'est le fin fond du désert. Et j'étais là, triste. J'étais obligé d'arrêter d'écrire parce que je ne pouvais pas me permettre de m'auto-censurer et puis confier mon manuscrit auto-censuré à un comité de censure militaire en plus. C'était humiliant, trop humiliant pour moi. Et c'est ma femme qui m'a donné le courage justement d'opter pour la clandestinité. Elle m'a dit, écoute, on est dans le désert, tu es ma seule distraction, tu ne vas pas me gâcher ma vie. J'étais malheureux. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, il n'y a rien. Même la télévision ne fonctionnait pas. On ne la captait pas. Donc, elle m'a dit, il faut avoir le courage de tes convictions. Tu veux écrire, écris. J'ai dit, comment? Mais tu sais très bien que... elle m'a dit, prends un pseudonyme. J'ai dit, ok, je prends un pseudonyme, mais la sécurité militaire pourrait convoquer l'éditeur pour lui demander de lui apporter tel ou tel contrat. Ils vont voir que le contrat, on ne le signe pas avec un pseudonyme, on le signe avec son vrai nom. Et elle m'a dit, je te donne mon nom. Et elle m'a dit cette phrase... Oui, je l'ai répété 1 million de fois. Elle m'a dit cette phrase cosmique, terrible. Tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne le mien pour la postérité. C'était magnifique. Et j'ai dit, ma femme qui n'a rien à voir avec la poésie, hein, qui est cartésienne, je ne sais pas. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit, hop, c'est certainement la bonne direction à suivre. Et c'est comme ça que j'ai choisi au départ... un pseudonyme, ça a été Yasmina Khadra, voilà. Donc, quand j'écris, je ne suis ni femme, ni homme, je suis romancier. Je peux me glisser dans la peau d'une femme, je l'ai prouvé dans les Hirondelles de Kaboul. Quand j'étais dans la peau de Zunera, sous ce tchadri, sous le soleil. Donc, ce qui m'importe, c'est d'intercepter les pensées les plus intimes, les émotions les plus intimes de mon personnage. Si j'y parviens, c'est que je suis un bon romancier. Si j'y parviens pas, c'est qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre. Je pourrais écrire sur une femme sans aucun problème. Parce que je suis aussi une femme. L'homme, c'est une femme ratée.
Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se quitter là-dessus. Il y a juste une précision, puisqu'on se dit tout, Yasmina Kadra. Sauf erreur de ma part, le prénom de votre femme, c'est Yamina. Et c'est votre éditeur qui s'est trompé et qui a rajouté S.
Oui, moi j'étais en opération. Pour l'anecdote, j'étais en opération contre le terrorisme. Donc on était en pleine bataille. Le soir, je dois l'appeler pour qu'elle sache que je suis encore vivant. Donc je l'ai appelé, elle me dit, écoute, ton ami français demande ta carte d'identité. C'était des codes parce qu'on risquait d'être sur écoute. Je lui dis, tu donnes le tien. Elle a écrit Yamina Kadra. Et quand c'est arrivé chez l'éditeur, il a dit, ah, encore ces Algériens, ils se trompent tout le temps, ils ont oublié un S. Il a ajouté un S, c'est devenu Yasmina. Parce que tout ce qui vient de l'Algérie est ou maladroit ou suspect. Voilà.
Il y a juste une question encore pour mademoiselle ici. Allez-y.
On s'est demandé aussi avec ma classe quels étaient les auteurs qui vous ont le plus influencé, qui vous ont permis de vous élever et de vous lancer dans la littérature.
Les écrivains. Au commencement, il y a eu Gogol. Gogol, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup. On était, j'avais beaucoup d'affinités avec lui, pas dans l'écriture, mais dans notre vie. Lui aussi, il a été ravi à sa famille pour être enfermé dans un orphelinat. Enfin, il y a beaucoup de choses qui n'ont. J'ai adoré ce personnage, cet écrivain. Puis ça a été Jack London, John Steinbeck, puis Medvedev, je crois, Kuznetsov. Et puis tous les écrivains, j'ai adoré les Arabes, Tahassin, qui est le plus grand romancier arabe, les Français, Gide, Giono, Camus. Voilà, et j'étais boulimique. Pour moi, chaque écrivain était mon ami. Chaque écrivain était mon meilleur ami. Et chaque livre était un tapis volant qui me permettait d'aller ailleurs. C'était la seule brèche qu'il y avait. Vous savez, c'est très facile de dire qu'à l'âge de 9 ans, j'étais confié à une institution militaire. Encore faut-il raconter un petit peu cette institution. C'était une forteresse médiévale, avec des hauts murs. On n'entendait même pas le bruit de la circulation. Et donc, on vivait dans la peur, parce qu'on la disait aussi hantée. Moi, je faisais pipi dans mon lit, parce que j'avais peur d'aller aux toilettes. On disait qu'on entendait de temps en temps des bébés en train de vagir. Il y avait des cris, des femmes, on entendait des voix. Et on avait peur, donc voilà. Et le livre, pour moi, c'était me restituer tout ce que le monde m'avait confisqué. Tout ce qu'on m'avait confisqué, l'écrivain me le rendait. Et c'est comme ça que j'ai aimé tous les écrivains. Je suis incapable de vous dire, même les mauvais. Même les mauvais, je les ai aimés parce qu'à un certain moment, je ne pouvais pas lâcher le livre. Hein. Quand je prends un livre, qu'il soit bon ou mauvais, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais je reste redevable à tous les gens qui m'ont permis, l'espace d'une lecture, de me dérober à cette vie carcérale qui avait été la mienne. Donc voilà, mes plus grands, je crois, c'est Gogol et John Steinbeck. Ce sont les plus grands. Pour moi.
Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vos délégués.